pas vrai. Oh.
C'est la bande originale, c'est une vidéo de vie avec Lili Lac, comme vous l'avez dit.
Bonjour à tous.
Nora Amzaoui.
Bonjour.
Daniel Morin.
Bravo Daniel.
Tom Villa.
Bonjour.
Et nos invités Anna Girardot et Pierre Marmaille.
Oh. Bonjour.
Bonjour. Enfin, des deux, on a gardé le meilleur, c'est-à-dire Anna Girardot. Puisque Pio est coincé dans des soi-disant embouteillages. C'est un gros mytho, en fait. Soi-disant embouteillages. On va parler de ce qui nous lie, le très bon nouveau film de Cédric Clapiche. Mais d'abord, je voudrais être sûr, Tom, que vous sachiez exactement pourquoi Anna.
On a eu un doute sur la conjugaison.
Oui, exactement.
Si, je sais pourquoi ils sont là, pour nous énerver. Alors, bon, Pio n'est pas encore là. Mais Pio, c'est typiquement le mec qui pourrait choper toutes les filles du monde. Ce à quoi il nous répondrait s'il avait été là. Mais non, pas du tout. Donc, phrase typique du mec qui peut choper tout le monde. Hein, mais de toute façon, il se fait désirer. Lui, il peut choper n'importe qui. À ne pas confondre avec Daniel Morin qui, lui, chope n'importe quoi. Donc, voilà. Donc, vous êtes là.
Oh non, oh non, 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 pas ça. Non, 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 pas les mères,
j'avais dit
pas
les mères. Ne claque pas la porte. Ne claque pas la porte quand tu pars le matin. Ça me réveille. Donc voilà, donc vous êtes là tous les deux. Enfin là, vous serez là tous les deux tout à l'heure. Vous venez pour le dernier Clapiche, Ce qui nous lie, qui contrairement à son titre n'est pas un film sur le bondage. Désolé Nagui. Ce qui nous lie, pour la faire courte, c'est un film sur le vin. Voilà, c'est un raccourci, mais c'est pour réveiller Daniel Morin. Voilà, c'est une sorte de petit coup de taser pour lui. D'ailleurs, Georges Brassens, Nagui, qui disait, le meilleur vin n'est pas le plus cher, mais celui qu'on partage.
C'est joli ça.
Ouais. Ce week-end, j'ai ramené deux bouteilles de villageoise à un dîner. Ah. Les gens ont fait la gueule. Voilà. Non, Brassens, il a dit aussi quand on est con, donc c'est pas Spinoza non plus. Hein. Donc dans le film, donc, vous jouez un frère et une sœur qui, avec leur autre frère joué par François Civil, doivent s'occuper du domaine viticole de leur papa. Alors c'est sûr que dit comme ça, ça fait un peu prime sur France 5 le vendredi soir. C'est avec après une rediff de Stéphane Thébault. Tu sais le mec qui anime la Maison France 5.
Ah, j'adore.
Vous voyez ce que c'est la Maison France 5 c'est un peu comme Du côté de chez vous, mais en long. Tu vois, c'est le mec qui te fait visiter chez lui. Il a 40 ans, il a revendu sa start-up à des Chinois. Et comme il a touché de l'oseille, il te fait visiter son loft qui, à la base, était une ancienne usine de pneus. Mais maintenant, on dirait chez Nagui. Tu sais, à l'intérieur, il n'y a pas de mur, il y a des baies vitrées partout. Au sol, t'as un béton ciré. Et dans le salon, il y a un Picasso. Sauf que, contrairement à Déco sur M6, là, c'est pas un cadre acheté chez Ikea. Donc voilà, bon, je me suis un peu égaré. Tout ça pour dire que dans le film, on n'est pas sur France 5. Il y a quand même une intrigue et il y a un petit suspense. Et puis, c'est quel beau métier. Que viticulteur. C'est vrai, viticulteur, c'est quand même un nom un peu plus classe que dealer de pinard. C'est vrai. C'est comme œnologue. En fait, c'est génial comme métier. T'es alcoolique professionnel. Non, mais tu sais, tu fais des gargarismes avec le vin, tu le racles, tu le recraches. Tu fais ça avec du coca, t'es un porc, mais avec du vin, t'es œnologue. Voilà. Et puis le mec, il trouve toujours aussi des goûts que toi, tu sens jamais. T'as vu, il a un petit goût d'ananas? Bah oui, en fait, j'ai envie de boire un Bordeaux, pas du Malibu. Non, mais c'est vrai. Ils sont fous. Non, mais bon, en tout cas, il paraît que Cédric Clapiche vous a fait boire du Bourgogne à 11h du matin le premier jour. C'est vrai ça?
C'est vrai, oui c'est vrai, il nous a fait boire, il nous a fait faire une dégustation à 11h du matin pour qu'on puisse découvrir le vin de Bourgogne.
Bon bah très bien, s'il fait un biopic sur Pablo Escobar, je pose ma candidature maintenant.
Ça m'étonne pas toi.
Il y aura la moitié du pas français. Bref, je sais pas si vous avez tout compris, mais si vous aimez les très beaux films sur le vin, la famille et non pas le bondage, et bah Ce qui nous lie est fait pour vous.
Absolument, ce mercredi en salle, le Clapiche.
La bande originale, Nagui. Sur France Inter.
Anna Girardot, la touche féminine sensuelle de ce film, au milieu de ses deux frères qui, évidemment, s'aiment comme deux frangins, mais s'en veulent aussi, surtout un, incarné par François Civil. Il en veut à Pio Marmaille d'être parti et pendant une dizaine d'années, je crois, faire une espèce de tour du monde.
5 ans,
c'est pas 10 ans, mais il n'a pas de nouvelles depuis 4 ans.
Ils n'ont pas de nouvelles depuis, voilà.
C'est ça, exactement. 4 ans et 11 mois. Étant l'âge.
Ils sont pas eu l'alerte.
D'accord.
C'est un secret qu'on découvre dans le film, oui, attention.
Okay. Oh, ça va.
Cette vivacité d'esprit, il faut un peu de mystère.
Je crois que déjà, si on pas y aller, foutu. Mais...
Ok, d'accord. Non, mais j'ai tellement aimé.
Désolé,
c'est pas en direct.
Quoi, le film aussi, aussi. Tout est en direct. Le film aussi se joue, tout se joue en même temps. Ce qui nous lie, c'est l'héritage, c'est l'amour, c'est la terre, c'est.
Les racines. C'est la famille, c'est les. Le film, il se passe dans le milieu du vin, mais en fait, on aurait pu le mettre dans un autre contexte. Ça parle des valeurs familiales. Bonjour, Marmaille.
En fait, il avait son jogging à faire, c'est ça la différence.
Qui a été en train d'essayer sur le périphérique.
Pensez pour sa famille.
Bienvenue, Pio Marmaille.
Bienvenue. Bonjour, madame.
Oui, donc vous disiez, Anna, c'est un film sur la famille, mais ça aurait pu se passer dans un autre cadre.
Oui, ça parle des non-dits, des choses qu'on ne dit pas assez dans sa famille, avec les gens qu'on aime. Ça parle des relations fraternelles, ça parle du travail. C'est pas juste un film, finalement, sur le vin.
Sauf que l'histoire, vous avez qu'à directement lui piquer son jus de fruits.
Mais c'est ce que je suis en train de faire.
Alors, c'était une analyse d'urine, en fait.
C'est pour ça que c'est un peu amer. Dans le temps.
Allez, un peu merci, monsieur.
En même temps, la force, quand même, de ce film et de l'histoire du vin, c'est la période sur laquelle tout est fait, parce que chaque saison a son importance, a son impact, a sa part de risque, et on voit le temps qui passe, et on voit, il y a une notion très importante du temps qui passe dans le film, Pio.
Bah oui, et puis c'était l'intérêt aussi du film, c'est-à-dire de travailler sur un an, c'est-à-dire la possibilité d'avoir un laboratoire comme ça de fabrication, c'est quand même assez rare, je dirais, de fabrication de films, mais aussi de vin, puisqu'on on a quand même on a participé à la fabrication d'un vin qu'on a même goûté. Donc c'est vrai que c'est assez rare quand on fait un film. En général, bon bah tu fais un film, tu fais la promo et puis après c'est fini.
C'est sûr, ce
que t'as fait quelque part.
Donc vous voyez que ça aurait pas pu être dans n'importe quoi. Si ça avait été dans une fabrique de fringues, vous auriez été très embêté. Non, les saisons sont très importantes. On se rend compte en plus qu'il n'y a pas un jour où il n'y a rien à faire dans une vigne. On pourrait se dire que l'hiver, bon bah c'est foutu. Il faut juste espérer qu'il n'y ait pas trop de gel et attendre que les beaux jours arrivent. Il y a du boulot en permanence. Il y a de la préparation en permanence, il y a des équipes à constituer aussi, et dans un contexte d'héritage. Alors ça, c'est le contexte qui en effet pourrait se dérouler dans n'importe quelle branche commerciale. L'indivision des terres sur lesquelles vous vous retrouvez, il y a la maison familiale, là où vous avez tous les trois grandi, frères et sœurs, mais il y a surtout le poids de savoir est-ce qu'on continue à poursuivre le projet porté par nos parents, ou est-ce que chacun part dans son coin. Ça aussi, c'est l'une des intrigues.
Bah, c'est aussi une réalité, en fait, en Bourgogne. C'est-à-dire que le prix de la terre a tellement explosé, c'est tellement cher. Le rapport entre un simple mètre carré et le prix qu'on peut vendre une bouteille pour espérer, si vous voulez, même si c'est un vin cher, pour espérer pouvoir entrer dans une logique financière réalisable. C'est quand même, cette phrase est assez,
en tout cas, équilibrer les finances, déjà.
C'est ça. C'est très, très dur, quoi. Surtout dans les héritages, il faut payer des frais de succession. Les trois quarts des gens, ils s'en sortent très difficilement, quoi. Et après, comme c'est une région qui est quand même, il y a un terreau familial assez fort. Enfin, il y a une vraie dimension familiale qui existe. C'est vrai que les gens veulent pas vendre, quoi. Donc tout le monde essaie un peu de s'en sortir entre eux, quoi.
Pio, dans le film, vous êtes donc le frère qui est parti, le grand frère, l'aîné, et qui est parti sur peut-être un coup de tête ou un sentiment, en tout cas, de désamour entre son père et lui, mais qui est resté dans le monde du vin, puisque vous avez fait le tour des vignes dans le monde entier et que vous avez même emprunté de l'argent pour pouvoir avoir votre propre culture en Australie.
Oui. Exactement. Après, c'est un personnage qui ressemble beaucoup, en fait, à cette jeune génération de vignerons, hommes ou femmes d'ailleurs, en Bourgogne, parce qu'il y a beaucoup de mecs ou de femmes d'une trentaine d'années qui partent comme ça pendant 5, 6, 7 ans ou 10 ans au Chili, en Amérique du Sud, un peu partout, pour découvrir en fait ce que c'est aussi la vinification à l'étranger, parce que je pense que c'est aussi une qualité de s'ouvrir et de se dire il y a pas que mon petit savoir-faire qui compte. Et ça, c'est un truc que j'ai rencontré dans cette région, quoi. C'est vraiment une dynamique comme ça, un esprit comme ça que
d'apprendre des autres, évidemment sur le terrain. Vous allez être déchiré entre ces deux liens,
ces terres, ces racines, en fait.
Et puis oui, puis deux familles, celle que vous avez constituée puisque vous êtes papa, et de l'autre côté celle que vous retrouvez.
C'est en même temps. Est-ce qu'on est en train de parler de, est-ce qu'on est en train de vendre tous les ressorts dramaturgiques du film? Je ne sais pas. En tous les cas, oui. Il y a le besoin de revenir à la terre. En même temps, l'attachement. Enfin, je pense que c'est normal, mais ça dépasse même le vin. Si j'avais un enfant que je laissais à un endroit du monde et que j'étais pas avec lui, forcément, j'aurais envie d'être Elastic Man pour pouvoir me séparer en deux.
Elastic Man qu'on connaît bien.
Qu'on connaît tous très bien.
Et au milieu de ça, vous, donc, Anna Girardot, tiraillée par ces deux frères qui ont deux visions différentes, finalement, de la suite à donner à l'histoire familiale.
C'est très masculin, en plus, comme milieu, en fait. Vous êtes,
alors,
c'est un
oui,
beau
c'est
rôle.
Masculin, mais parce que c'est un métier vraiment féminin. Il y a beaucoup de plus en plus de femmes vigneronnes. Et puis, c'est un métier qui demande de l'instinct, qui demande une vraie sensibilité. Donc, en ça, moi, je trouve que c'est un métier féminin. C'est physique, en effet, mais je trouve que c'est un métier très féminin.
Mais c'est un milieu d'hommes, c'est ça que je veux dire.
C'est un milieu d'hommes dans lequel il faut en effet se faire respecter et c'est un peu plus compliqué. Là, en plus, elle a cette pression un peu sur ses épaules. Son père vient de mourir, c'est elle qui est censée reprendre le domaine familial.
Ouais, c'est un peu la tôlière, quoi, à ce moment-là. Ouais.
Et d'un coup, elle doit devenir patronne, elle a des gens sous ses ordres, c'est quelque chose dans lequel elle n'est pas forcément à l'aise. Et puis, il y a son grand frère qui débarque, qu'elle n'a pas vu depuis 10 ans. Pour lui, il a vraiment la figure, il a une figure de grand frère protecteur, et donc elle se demande si c'est pas lui qui devrait reprendre le domaine. Et donc elle est un peu tiraillée comme ça pendant ces 8 mois où elle finit par apprendre que, et ben, qu'en fait ses épaules elles sont solides et qu'elle peut.
On va la voir grandir, hein. Voilà. En même temps que les vignes, en même temps que la terre, on va la voir grandir dans cette histoire. Il y a, et donc je vais arrêter de dire ce qu'il y a dans le film parce que je vois des regards noirs dans ma direction.
De toute façon, c'est mort, vous avez raconté la fin.
Non, j'ai rien divulgaché, j'ai rien spoilé, mais c'est un film avec une vraie tension, avec une véritable intrigue. On se demande ce qui va se passer et il y a beaucoup de rebondissements tout au long du film. Sincèrement, je pense, pardon si je vous ai blessé, mais c'était pas du tout le but.
Non, vous n'avez blessé personne.
Il y a beaucoup de rebondissements et puis il y a des images de dingue. Il y a un tournage de dingue qui s'est étalé sur plusieurs mois, à raison, sur une année en tout cas pour ce qui est du film. Enfin, vous y alliez, j'imagine, quoi, 2 semaines par-ci, 2 semaines par-là. Comment s'est passé pour pouvoir jouer toutes les saisons dans un film?
Oui, c'est ça, on y allait 4 fois, je crois, et à chaque fois, on est resté 3 semaines sur place, et puis on a fait des sessions, on était séparés tout d'un coup de 3 mois, et c'était génial, parce qu'à chaque fois qu'on se retrouvait, l'équipe, en une seconde, retrouvait sa famille, et il y avait quelque chose comme ça de très chaleureux entre nous, où en même temps, il y avait une vraie ambiance de travail, où on avait vraiment tous envie de faire un bon film, et en même temps, dans un vrai sentiment de camaraderie.
Ouais, mais c'est... Moi, je sais que je faisais un spectacle en même temps à côté, donc j'étais en tournée, un spectacle qui était assez dur. Et c'est vrai qu'il y avait une... c'est très agréable comme ça d'avoir un peu le temps, de laisser un peu respirer les trucs, tu vois, entre différentes sessions de travail, de ça, ça infuse un peu comme ça, je sais pas comment expliquer.
Mais on n'a pas peur de perdre, au contraire, l'état d'esprit dans lequel on était pour la scène précédente, c'est ça qui est bizarre.
C'est un risque, mais après c'est aussi...
Mais ça qui est bien aussi.
Oui, c'est ça, justement, c'est de se dire, on n'est pas sur un truc linéaire, justement, c'est un peu plus risqué que d'habitude, on se dit, si ça se trouve, ça va complètement foirer d'une session à l'autre. Et en fait, au contraire, ça a été crescendo, c'est-à-dire que ça s'est resserré de plus en plus. Et à la dernière session de travail, c'est vrai que Cédric a dit, bon, là maintenant, on a pris plein de directions, maintenant on va vraiment faire en sorte que le film existe. Donc moi, j'étais assez surpris de la manière dont ça a pu se passer, quoi. Je pouvais pas rêver mieux, quoi.
Mais du coup, vous avez commencé dans l'ordre ou vous êtes parti, je sais pas, de l'hiver ou de...
Non, on a commencé dans l'ordre. D'accord. On a commencé vraiment, je crois que la première scène qui a l'image, c'est la première scène qui est tournée. C'est la scène où je fais 90 kilos.
Dont
25 kilos dans le visage.
C'est ce que j'allais vous demander.
C'est
ça. Mais c'est qu'on doit être aussi raccord avec. On est barbu, on n'est pas barbu. Ouais. On est coiffé de la même manière ou pas. On prend du poids ou on en perd.
Moi, ça n'a pas été le cas, malheureusement. Je le dis. Hein, une fois de plus, je spoil. Vous pourrez voir d'un plan à l'autre 5-6 kilos qui disparaissent d'un coup. Ce qui est vrai en plus. Parce qu'en plus, évidemment, j'ai perdu du poids pendant le film. Bon, faut dire que je sais pas. Enfin, parce que je travaille beaucoup à côté. Mais c'est vrai qu'il y a quelques moments où effectivement on constate qu'il y a... c'est pas plus mal. Hein,
ceux qui constatent ça sortent de l'histoire.
Et le film
est tellement bon qu'on cherche pas à voir. Non, mais c'est vrai. Si on commence à voir des détails, ceux qui sortent d'un film en disant, t'as vu qu'à un moment donné la pendule n'est pas à la même heure. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas du tout dans le film. Et voilà, il faut oublier. Ce film est extrêmement bon. Il est beau. Il est bon, il est agréable, et puis dans les rapports familiaux, dans les rapports affectifs qu'il peut y avoir entre frères et sœurs, et même si vous n'avez pas de sœurs ou de frères dans la vie, il y a des liens familiaux qui sont extrêmement forts, et puis les situations d'héritage, là encore, que vous ayez bien vécu ou mal vécu un héritage, ou pas du tout vécu, et tant mieux si vos parents sont encore avec vous, on peut comprendre aussi ce qui se passe dans un tiraillement qui est à la fois économique, à la fois fois historique aussi. Il y a un côté patrimoine. On ne peut pas. Est-ce qu'on peut abandonner ce que nos parents ont mis toute une vie, voire plusieurs générations, à construire? C'est un film qu'on vous encourage à voir. Enfin, je sais pas comment toi tu l'as vécu.
Mais moi, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, parce qu'il y a une dimension documentaire, c'est-à-dire que tout d'un coup, c'est en effet l'histoire de famille, mais le cadre, il est quand même important, il est capital, et on assiste à toutes les étapes aussi de la fabrication du vin, de la préoccupation de la vigne, ne serait-ce que de vous regarder devant la fenêtre en direction des vignes, on sent la préoccupation parce que c'est votre gagne-pain, et au-delà de ça, c'est le père, c'est la famille qui est une forme de métaphore de la vie de toute façon avec le vin, et ça fonctionne vraiment très très bien de ce point de vue-là.
Et puis c'est assez pédagogique aussi bien sur le vin que sur l'héritage. Quand ils sont chez le notaire, du coup, il y a plein de termes que tu comprends. Et
c'est vrai. C'est vrai.
La problématique économique aussi, de savoir si le droit de succession doit être supprimé. Non, mais c'est vrai, ça pose. Ouais. Ça pose.
Ce film, donc, c'est ce mercredi qu'il sera au cinéma. Saluons François Civil.
Qui dort sans doute à ce moment-là précis de la journée.
Jaloux.
Je t'embrasse, François.
T'es jaloux. Mais en tout cas, je tiens à le dire et à vous le dire dans le blanc des yeux, tous les trois, vous êtes vraiment parfaits. Excellent comédien. Tout est juste. Tout est formidable, c'est très agréable. Ce nouveau film de Clapiche va vous plaire. Vous auriez sifflé quand on vous a dit qu'Anna et Pio étaient nos invités.
Oui, et quand je pense à vous, Anna, je pense à une série.
L'impensable vient de se produire. Les personnes qui, hier encore, étaient tenues pour mortes, sont revenues.
Le simple travail de recensement va nous prendre plus d'un mois. C'est la Croix-Rouge qui assurera la prise en charge des personnes. Elle sera épaulée, du moins au début, par l'armée de terre et la police.
Les Revenants, nous sommes en 2012, c'est la date de la sortie de la série. Et vous incarnez, alors à chaque fois dans les films, Anna Girardot, je tiens à vous le dire, vous avez quelque chose de complètement rayonnant et lumineux. C'est assez fou, quel que soit le rôle. Et là, vous incarnez un personnage difficile à cerner, rayonnant par ailleurs. Est-ce qu'à la lecture du scénario, vous vous êtes dit... parce que quand c'est une série, j'imagine que... parce qu'en gros, votre personnage, il faut quand même juste un peu expliquer...
Si vous arrivez à l'expliquer, je veux bien l'explication.
Moi, en tout cas, ce que j'en ai compris, c'est que vous avez, par des rapports physiques et un attrait très sexuel, une forme de divination, comme une sorte de pitié, qui est à même de communiquer avec l'au-delà d'une certaine façon. Donc, j'imagine que quand
vous...
Elle a bien fait.
On sent que c'est pas improvisé. On sent qu'elle maîtrise.
Ouais. J'ai réfléchi un peu au personnage et je me dis quand...
Surtout vu la série.
Je l'ai vu. Non, mais surtout, j'imagine quand on est une comédienne, on reçoit le scénario, on n'a pas tout d'un coup sur une série parce que c'est en évolution. Ça doit être compliqué de mener à bien un personnage sans savoir exactement ce qui va devenir et où il va aller.
C'est vrai que c'était un peu compliqué en fait avec Fabrice Gobert, le réalisateur. On avait tourné ensemble dans mon premier film et son premier film aussi, Simon Werner a disparu. Et on avait très envie de retravailler ensemble. Il m'avait parlé des Revenants, il m'avait parlé du casting et il m'avait dit « je suis désolée, il n'y a pas de rôle pour toi ». Et puis je lui ai dit « c'est pas grave, moi je trouve que c'est un super projet, c'est magnifique ». Et puis il m'avait rappelé 2 semaines plus tard en me disant « quand même, c'est dommage, retravaillons ensemble, il y a ce personnage qui meurt au premier épisode et on peut en faire quelque chose ». Et donc il est devenu cette espèce d'ange de la mort qui communique en effet dans l'au-delà à travers... ce rapport
charnel
qu'elle veut avoir avec les hommes, et donc on a essayé d'imaginer un personnage comme ça, mais je pense que le personnage lui-même,
ensemble, en fait.
On l'a un peu conçu ensemble et est devenu plus mystérieux que enfin voilà, il nous a un peu échappé.
Plus mystérieux que Gobert, il n'y a pas quand même là, franchement.
Mais non, et même Gobert parfois n'avait pas totalement l'explication, le mode d'emploi total du personnage, mais c'est ce qui était aussi assez drôle à jouer. Moi, je suis arrivée un peu sur le plateau comme une spectatrice, en fait. J'étais très contente de faire partie du casting et de regarder comment se passait le tournage des Revenants. Et donc, ce personnage est un peu énigmatique, donc ça fonctionnait bien aussi.
Fabrice Gobert, juste pour préciser, que nous recevrons vendredi, pour son film Chaos, dans lequel
j'interviens.
Physiquement,
mais aussi avec la parole.
Sans variation de poids.
Sans aucune variation, puisque tourné sur 6 semaines, donc classique.
Impeccable.
Pas de Weight Watchers, et j'en passe.
Mais qui est un film totalement barré.
Moi, j'ai adoré. je l'ai vu, enfin j'ai vu avant-hier. En général, je suis très critique avec avec tout. D'ailleurs, avec tout le monde, je déteste tout le monde. Je suis quelqu'un de très méchant. Mais là, c'est vrai que j'étais très agréablement surpris.
Donc, vous êtes plus le personnage de Laurent Lafitte.
C'est vrai que c'était assez surprenant. C'est vrai que Fabrice, il a vraiment un sens de la mise en scène comme ça et du rythme, un truc un peu. Une sorte de poésie comme ça, un peu flottante. J'ai trouvé ça vraiment assez touchant.
En tout cas, il sera là donc vendredi aux côtés de Clotilde M, qui elle également était dans et dans la série, pardon, Les Revenants.
Les Revenants. Et quand je pense à vous, Pio Marmaille, je pense à de très beaux films. On va en parler tout à l'heure. Le premier jour du reste de ta vie, Un heureux événement, Nos futurs, et plus récemment à celui-ci.
Je suis meilleur. Je conquérirai ce qui n'a pas été conquis. J'ai entraîné mon esprit et mon corps suivra. Je suis quoi ?
Le meilleur.
On n'entend rien.
Le meilleur.
J'ai un petit service à te demander.
T'as besoin de combien ?
Non, j'ai pas besoin de fric. J'ai juste besoin que tu m'aides à trouver un boulot, un mois, deux mois.
Tu te trouves quoi comme boulot ?
Vendeur.
Vendeur de Sylvain Desclous avec Gilbert Melki, où il joue un rôle d'un vendeur, un excellent vendeur de cuisine qui a tout sacrifié à sa carrière, notamment sa famille et son fils que vous interprétez, un fils qui marche sur les traces, sur ses traces en lui demandant de l'initier. Encore un rôle de fils aussi dans une forme de tradition et d'héritage. Je me demandais, est-ce que il faut être un bon vendeur pour être acteur?
Je suis pas persuadé qu'il faille être un bon vendeur. Je pense qu'il faut, bon, en vrai, si on peut rentrer dans les trucs d'actorat, mais moi, je crois beaucoup au travail collectif, quoi. En tout cas, la forme d'abandon avec le partenaire. Enfin, en tout cas, c'est un peu paradoxalement, c'est-à-dire à la fois maîtriser à peu près tout ce qui se passe et en même temps se laisser complètement aller avec, dans l'instant, comme ça, avec quelqu'un. Bon, bah, ça, c'est un truc parenthèse faite. Parenthèse un peu chiant, tout démarrant, mais
non,
bon.
Pourquoi pas?
En tout cas, c'est comme si je faisais une réflexion à voix haute. Enfin, je réfléchis à voix haute. Après, est-ce qu'il faut être un bon vendeur?
On entend tout ce que vous pensez, en fait.
Non, bien sûr. C'est ça mon problème, c'est que parfois, je suis en no-filter et je me dis, merde, ça y est, j'ai l'impression que je réfléchis à voix basse alors que pas du tout. Non, après, je pense qu'il faut être vendeur, oui, oui, un petit peu, quand on vend un film, mais je pense que quand on commence à faire des films plus ou moins dont on est fier, dont on est plus sûr, j'ai l'impression que la dimension de vente, en tout cas si on parle de promotion par exemple, elle n'existe quasiment pas, puisque à chaque fois que aujourd'hui quand je fais de la promotion pour un film, je suis heureux du film en soi. C'est discutable sur certains points, mais je suis convaincu que c'est une chose à faire.
Donc l'argument n'est pas vicié.
Non, donc c'est raté.
Et, en tout cas,
je suis pas d'accord avec vous. D'accord. Il ne s'agit pas d'être un bon vendeur.
D'accord. Les vendeurs doivent être des bons acteurs.
Oui,
ça fonctionne plus dans ce sens-là. Oui.
Après, ils peuvent être aussi, in fine, convaincus que ce qu'ils vendent, c'est de la très très bonne marchandise.
En l'occurrence, des cuisinières, je ne suis pas persuadé. Je ne sais pas si vous avez déjà construit ou vécu ou déplacé même dans une cuisinière, ça s'effondre. Ça ne tient pas sur le long terme. C'est des produits de mauvaise qualité.
C'est une forme de diffamation.
C'est des fabrications qui ne sont pas françaises.
Ils n'ont pas pillé, c'est pour ça que...
il faut, on va lever le voile sur le...
On va dire la vérité.
On a un ras-le-bol de ces cuisines.
Alors que Mobalpa,
ça c'est du costaud.
Ça, c'est du costaud. Ça dure dans le temps.
Français, monsieur.
Et justement, l'interaction avec Gilbert Melki, là, dans ce cas-là, ou avec d'autres films, vous parliez d'un abandon avec le partenaire. Incarner le rôle du fils, est-ce que c'était quelque chose de plaisant pour vous?
Bah, je pense que si j'avais 70 ans, je jouerais plus le rôle du père, mais c'est plus de ma génération.
Est-ce que c'est plaisant dans cette interaction
c'est assez plaisant parce que il y avait un truc un peu comme ça de on n'a pas la même énergie, donc j'aime bien comme ça qu'il y a un truc d'adaptation entre deux personnes, en tout cas avec un partenaire comme ça que je connais pas. Des fois ça se passe très mal avec mes partenaires, là ça se passe bien, enfin c'est quand même assez rare que ça se passe mal, mais là il y avait un truc comme ça de rencontre où ça fonctionnait en termes d'énergie, quoi.
Et dans ce film, et là dans ce qui nous lie, vous parliez de
catastrophe.
Bah, ça se sent tout de suite, non, je sais pas, vous avez remarqué. En tout cas,
c'est pour ça que j'admire votre travail, franchement, travailler ensemble.
Non, il y a un truc qui a fonctionné assez spontanément, je dirais. Et puis comme je disais, on a eu le temps, c'est vrai, on a eu ce temps d'un an, je trouve que ça génère des liens à l'image qui sont plus forts, évidemment, qui sont plus profonds,
ouais. qui relèvent peut-être plus du théâtre ou d'une troupe de théâtre que d'un tournage de film habituel, ouais.
Et surtout un truc qui n'est pas qu'à aucun moment on a besoin de forcer, c'est-à-dire que même quoi qu'on fasse, ça existe, donc ça c'est très agréable. Ouais. Après il faut le maintenir, mais quoi qu'on fasse, il y a un truc comme ça de fantaisie, d'amour qui existe, quoi.
Oui, c'est vrai qu'il y a une complicité entre nous qui était assez forte, et tout de suite, en fait, on s'est très bien entendu. Il y avait des rapports quasi fraternels, entre guillemets, parce que on pouvait se charrier ou s'envoyer des pics comme ça sans absolument pas s'en vouloir, et il y a quelque chose de très fort et d'incassable qui a duré pendant tout le tournage et qui, à mon avis, à l'écran se ressent.
Et clairement, c'est pas triste, la fin d'un tournage, par conséquent.
Ah là, celle-là, c'était terrible.
C'était terrible.
C'était terrible. Ah putain, c'était ardo.
C'est dur.
Non, non, parce que ça, c'était non, c'était vraiment
ça, c'était le boulot,
l'émotion.
Oui, mais la scène
on
en parlera
tout à l'heure.
Il y a une scène
la scène la plus drôle.
Vous êtes pompette quand vous êtes bourré, Anas.
À la poêlée.
C'est la partie documentaire du film. Donc,
l'oubli, la disparition des consoles.
Il paraît que c'est ce qui est le plus dur à jouer,
C'est dur à jouer.
C'est dur.
C'est dur parce qu'on a peur tout de suite d'être dans la farce ou d'en faire trop. Et puis on se souvient pas en général
de l'état dans lequel
on est quand on est plus sobre. Et moi, Cédric, il m'avait ramené quelque chose qui m'a un peu aidée. C'est-à-dire que le premier jour, on s'est tous rencontrés, qu'on a découvert cette fameuse dégustation à 11h du matin de Bourgogne, a duré jusqu'à très tard le soir, jusqu'à ce qu'en effet, la fatigue arrive à moi et que je perde tout usage de...
Enfin, la fatigue est autre chose.
On
va mettre ça sur le dos de la fatigue. Il y avait quand même une soixantaine de verres de blanc par personne. C'est normal.
Et vous recrachiez pas comme dans...
Ah bah non.
Non, parce qu'on venait d'arriver, on s'est dit qu'on va avoir un peu d'allure. Et en fait, paradoxalement, ça a complètement disparu.
C'est là que j'ai perdu mes consonnes. C'est devenu une blague récurrente sur le tournage. On s'est dit, attention, Anna va perdre ses consonnes, etc. Et puis Cédric m'avait filmé ce soir-là. Il avait trouvé ça très très drôle. Et donc il s'était dit, je vais la filmer.
Donc vous aviez le reportage.
Et donc je l'avais le reportage. Donc ce jour-là, il m'a dit, mais attends, j'ai un document incroyable pour toi. Jetez-toi sans tes consonnes bourrées à minuit.
Regarde sur ton Facebook.
Je ne sais pas si vous avez déjà vu.
Tu t'es vu bourré.
Tu t'es vu quand t'as bu. Voilà. Donc cette scène était très drôle à faire, mais c'est pas évident en effet.
Mais c'est vrai que j'ai plus la phrase exactement en tête de Cédric Lapiche, mais qui disait que pour lui, un film, c'était un documentaire où des acteurs jouent. En tout cas, la manière dont il appréhendait ce film était au plus proche de la réalité du terrain, que le planning était pratiquement dicté par la nature et par la saison. S'il y avait de fortes pluies, du gel, du froid, à ce moment-là, il appelait tout le monde. Vous étiez disponible 24/24? Comment ça se passe pour faire ça?
Ben, on a commencé le tournage plus tôt parce que les vendanges ont commencé plus tôt parce que l'été était très chaud. On est reparti un jour parce que tout d'un coup la neige est tombée. Et c'est vrai que bon, Pio il avait sa pièce à côté, mais
comment gérer les plannings dans ces cas-là, Pio?
Bon, c'est sûr que je pouvais pas planter le. Enfin, moi, je pouvais pas planter la pièce. C'était pas possible. C'était un gros tournée, donc c'était pas possible. Mais il y avait quand même. On avait prévu quand même entre chaque session, en gros, il y avait quelques jours de flottement. À chaque fois, après, ça s'est pas joué. Genre un mois, attaque d'un coup, il fallait y aller. Mais c'est vrai qu'il y avait des. Ouais, il y avait quand même des moments de. C'est vrai quand il a neigé, qu'il fallait y aller. Ça, en général, ça se passe pas comme ça dans la vie. Quand on déplace pas comme ça 35 personnes, en disant ça y est, neige, on se bouge. Ça, c'est en ça qu'il fallait. Il fallait se rendre disponible, quoi.
Ce film, on vous encourage à le voir, vous allez vous délecter, voilà, et l'apprécier. Il est intelligent, il est bien joué, on apprend plein de choses sur la manière dont un vin peut se faire, mais surtout sur la force et l'importance des liens
dans une succession.
Des liens dans une famille. Des liens dans une famille. Voici l'humeur de Nora Hamzaoui.
Merci. Bah écoutez, moi ce week-end un peu pourri. Hein. J'ai aidé un couple. Ouais, mais bon, justement, j'ai aidé un couple d'amis à déménager. Tu vois, donc super. Enfin, aider. J'ai fait comme d'habitude. Hein. Je me suis contentée de poser ma main sur des cartons et des malles que d'autres gens portaient vraiment. En même temps, pardon, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je vais pas me péter le dos en faisant semblant de pouvoir soulever un canapé alors que je suis au bord de la chute de tension quand je porte la litière de mon chat. Donc bon, on va arrêter. À un moment, il y a une meuf qui m'a sorti. Bah je sais pas. Au lieu de faire semblant de porter un truc lourd, tu pourrais juste descendre des trucs légers qui traînent. Ah, non, mais quelle conne celle-là. Et toi, tu pourrais juste fermer ta gueule. Non, mais enfin, bon, ça va pas. Tu sais, cette meuf, je peux pas la blairer. C'est la meuf qui sous prétexte qu'elle s'habille que en marque commerce équitable, pense qu'elle a un crédit connerie sur les autres et qu'elle peut se permettre de mal te parler. Puis surtout, ça va, t'as envie de lui dire meuf, t'as envie de rendre le monde meilleur. Au lieu juste de me dire ce que moi j'ai à faire, putain, retire tes putains de Birkenstock et fous-moi tranquille. Laisse-moi, bon, bref. Oh, bah, je lui dis ça. Non, mais évidemment, je lui ai pas dit ça. Hein. Je lui ai pas dit ça, évidemment.
Ah bon?
Non, bah non, je lui ai juste dit, eh oh, eh, ça va. Hein. Et du coup, j'ai porté les trucs légers qui traînaient. Et alors, bizarrement, je me suis trouvé presque encore plus inutile. Pardon, mais me taper les 5 étages de l'appartement jusqu'au camion juste pour porter une trousse, c'est un peu humiliant, en fait. T'as tous les mecs qui font la queue vers l'entrée du camion avec des chaises, des lampadaires, des cartons, et toi t'es là avec la petite trousse en cuir pas remplie là. Tu sais, c'est la trousse en cuir qu'on a tous, celle que t'as depuis 1991 qui traîne de déménagement en déménagement, dans laquelle t'as juste un crayon HB et un compas. Tu sais, clairement, t'aurais pu s'en débarrasser cette trousse. Oui, la vieille gomme. Tu vois, et vraiment, à chaque fois, tu as pensé à l'acheter cette trousse et ce qu'il y a dedans, et à un moment, tu te dis, tu sais pas pourquoi, tu te dis, oh, c'est jamais, ça pourra toujours servir. Pendant que je continue à me rien de foutre pendant le déménagement, j'ai pensé à toutes les situations dans lesquelles un adulte stable pourrait être amené à servir d'un compas, et j'ai pas trouvé. En revanche, j'ai fait une petite déprime. Enfin bon, je me suis sentie tellement inutile. inutile. Je me sens inutile pendant les déménagements. À chaque fois, ça me renvoie à la période où j'étais stagiaire en entreprise et où je passais ma vie à remplir la photocopieuse de papier juste pour sentir que j'avais accompli un truc. Hein, l'enfer. De toute façon, je déteste les déménagements. Rien que quand les mecs postent le petit mot sur Facebook là. Les amis, on déménage, on cherche des bras pour nous aider en échange de bière fraîche. Non mais franchement, en échange de bière fraîche. Non mais faudrait peut-être penser à trouver un argument un peu plus alléchant. Au bout d'un moment, non. Je veux dire, les gens peuvent se payer une bière fraîche sans se taper de porter les meubles. Mais à quel moment dans ta vie tu vas te dire, ok, on est dimanche, il fait 33 degrés, je vais me taper un déménagement de 5 étages sans ascenseur. Pourquoi ? Bah parce qu'il y a des bières fraîches. Non, pas du tout, tu vois. Non mais attends, même l'organisation du déménagement me déprime. Il y a quelques semaines, je les vois poster un sur Facebook encore, un bon plan déménagement dans mes contacts. Mais moi, j'ai même pas compris la question. C'est quoi exactement un bon plan déménagement ? Parce que dans les commentaires, il y en a quand même une qui a répondu, moi je connais un mec super sur le bon coin qui a un camion et qui fait des déménagements gratos en échange d'une conversation sympathique avec le passager. Donc ça, c'est un bon plan en fait. Non, parce que moi, c'est juste un teaser de faire entrer l'accusé, mais bon, pour d'autres gens, c'est un bon plan, quoi. Non, mais franchement, je crois que je préfère payer un déménageur, limite me faire arnaquer, que de faire ça gratos avec un mec et de prendre le risque qu'il me demande de quelle couleur est ma culotte. Pourquoi ? Bah, parce que c'est une conversation sympathique avec le passager, ça va pas ou quoi ? Là, il y a l'autre lourde de Birkenstock qui me sort ah non, mais c'est grave d'être aussi méfiante, ça s'appelle l'entraide, Nora. Les êtres humains sont pas tous des pervers ou des psychopathes, il y a aussi des gens bien. Moi, j'en doute pas. Hein. Je préfère juste pas qu'ils me demandent d'être sympa dans leur camion, c'est tout, tu vois. Bref, donc pour en revenir au déménagement d'hier, ça s'est quand même pas trop mal passé. On a été hyper efficaces, enfin, ils ont été hyper efficaces. Sur les coups de 14h, on a pensé avoir vidé tout l'appart quand Pierre, l'ancien locataire, nous sort « Bon, bah, il reste plus que ma cave et c'est réglé ». Alors moi, quand on me dit cave, comme tout le monde, je pense lieu en sous-sol qui pue l'humidité, où on stocke de trois merdes et aussi un peu fait entrer l'accusé. Bah là, pas du tout. Le mec parle d'une cave à vin. Mec, t'as 30 ans, t'es parisien, t'habites dans un 30 mètres carrés, pourquoi t'as une cave à vin, quoi ? 200 bouteilles stockées dans une armoire. Mais tu peux pas les acheter au fur et à mesure comme tout le monde, c'est quoi ce délire ? Il est là à t'expliquer, celui-ci, je l'ai eu pour mon bac, celui-là, c'est un grand cru incroyable, mais faut le laisser vieillir 10 ans avant qu'il soit bon. Putain, mais juste tais-toi, laisse-moi tranquille, j'en ai rien à foutre, bois les toutes maintenant, il va être nous de les porter. Non mais ça va pas ou quoi ? Puis je sais pas, une cave à vin, c'est quand même un truc que t'es supposé préciser avant un déménagement, ça, non ? Enfin je sais pas, il me semble, tu vois, c'est un peu comme quand t'as des livraisons Ikea, tu précises que t'habites au 7e étage sans ascenseur, parce que ça change tout. Tu vois, sinon quoi ? Sinon tu te tapes des déménagements, une fois là-bas, le mec te dit « Ah, je t'ai pas dit, je collectionne des blocs en béton ?» Enfin, tu peux pas. Non mais attends, c'est hallucinant. Alors comme évidemment, j'avais pas porté de trucs lourds, parce que t'arrives pas à porter des trucs lourds, tu peux te contenter des trucs légers, bah qui sait qui s'est tapé d'emballer 200 bouteilles dans du papier bulle ? Bah c'est moi, un bon dimanche de merde. Voilà.
Merci. La bande originale. On n'a pas. Je sais pas si vous avez suivi la finale de Roland Garros. Anna,
moi.
Pio, vous avez regardé un peu ?
Non, j'ai pas regardé. Qu'est-ce que
regardé, moi.
Pas du tout pas regardé. Bon, apparemment,
c'est
nous,
Nadal
oui.
Qui a gagné,
c'est Nadal qui a gagné.
Ouais. Dixième fois.
La décima.
Dixième fois. Mais surtout, le truc qui était. Non, c'est la dixième fois. Le truc le plus humiliant, mais je sais pas, personne n'en a parlé, c'est que à la fin du match, il y a eu une énorme banderole qui s'est déployée dans le public, qui avait été donc imprimée, qui avait été préparée, avec marqué Bravo Rafa 10 Roland Garros à côté de le logo. Donc ça veut juste dire qu'ils avaient prévu.
Non, ils se tenaient prêts au cas où. Au cas où, dans l'histoire du tennis.
Le podium sur lequel il a reçu le prix, il y avait marqué 10 avec le logo Roland Garros, et ils ont
mais
fait
changer le bout, sinon.
Et ils ont fait fabriquer. Ils ont fait fabriquer la réplique originale gravée avec marqué 10e victoire pour Rafa. C'est autrement dit, ils avaient tout prévu. Moi, je serais Wawrinka, je ferais une dépression nerveuse quand même.
Ils avaient aussi prévu le podium sans de la décima. Ils avaient aussi prévu le trophée sans
le montage des films. Et tout. Tu rigoles. C'était un super match et grand bonhomme Rafa.
Ouais. Bah là, ça le dévalorise un petit peu tout ce que vous.
Non, c'est pas lui qui avait prévu
ouais,
tout ça.
C'est
l'organisation. Lui, il a trop bien joué. Bon, revenons justement sur ceux qui jouent bien avec vous dans ce film, ce qui nous lie, qui sort ce mercredi. On vous a demandé ce que vous écoutiez comme musique pendant toutes ces dernières années, notamment 88-89. Bon, ça sera un peu le début de la vie hein, pour Anna Girardot, puisque à sa naissance, justement, elle écoutait un peu Ijlin. Tombé du ciel à travers les nuages, quel paysage pour un aiguilleur du ciel. Pourquoi vous avez choisi ce titre d'Ijlin quand on vous a demandé ce qui pouvait correspondre à ces années 80, fin 80 ?
Alors, je n'ai aucune idée de ce qu'on écoutait quand je suis née parce que j'étais trop petite. Mais j'ai ces souvenirs de moi petite, de ma maman qui écoutait Ijlin dans le salon. Et voilà, c'est mes premiers souvenirs musicaux, c'était ça et Stéphane Echer. Donc je vous ai donné Higelin.
Bah, voilà. ça
j'adore cette chanson.
De très bon goût. Vous êtes un peu la seule, avec tout le respect que je dois à Florence Pernelle par exemple, vous êtes l'une des rares présences féminines dans Ce qui nous lie. Florence Pernelle jouant le rôle de la belle-mère de François.
Voilà.
Exactement. Extrêmement drôle quand elle vient les réveiller pour le petit déjeuner. Mais non, pour en revenir à votre présence féminine, l'une des rares présences féminines dans le film, vous êtes donc une fille qui reprend le même métier que son papa, ce qui est le cas là aussi dans votre vie, ce que vos deux parents étant dans...
Comédienne
mais bon, on a compris. Est-ce que vous vous êtes posé la question de faire autre chose que de refaire comme papa-maman?
Alors moi je voulais faire tout sauf la même chose que papa et maman.
C'était raté.
je me suis loupée. Et tout le monde me disait, tu veux faire comme eux, et je suis tout sauf ça. Et en fait j'adorais ça depuis... Depuis toute petite, j'avais une caméra, je demandais à des copines, on réalisait des films, je faisais des sketchs, j'écrivais des scènes. Et puis je suis partie à New York à 18 ans prendre des cours de théâtre. Je voulais que ce soit loin de la France, loin de mes parents, loin de tout ça, et que ce soit mon propre choix.
Mais alors pardon, quand vous disiez « je ne veux pas faire comme papa-maman », vous vouliez faire quoi comme métier ? Parce que « je ne veux pas faire comme papa-maman », mais je prends une caméra, j'écris des histoires et je prends des cours de théâtre... Vous l'avez un peu cherché quand même. Hein.
Moi, je voulais créer des choses, donc je voulais créer des vêtements. Je dessinais beaucoup de vêtements et j'avais quelque chose dans ma création qui m'attirait beaucoup.
D'accord. Ok. Et donc voilà. C'est à New York parce que c'était loin de.
C'était très loin. Très très loin d'eux.
Du nid familial que ça pouvait se réaliser. Dans ces années-là, Pio Marmaille, vous écoutiez Bobby McFerrin, j'adore. Okay.
J'avais 22 ans.
Cette chanson correspond à 5-6 ans, c'est ça? Vous écoutiez?
Oui, alors je viens de me rendre compte que j'aurais pu prendre autre chose de plus. Mais je ne suis pas sûr que c'était sorti à l'époque.
Comme
moi, j'étais. Mon premier truc, c'était. Ma première cassette, c'était Ace of Base.
Ah ouais.
Mais je crois que c'était pas 88.
Ouais, c'est
et en fait, j'avais mon petit truc, mais j'ai déjà dit dans une émission, mais je le redis quand même parce que c'est vrai, j'avais mon petit Fisher Price là.
Ouais.
Je passais Ace of Base en boucle. Ah, bon, j'imagine que ça devait profondément faire chier mes parents. Et comme ils ont été toujours classe, ils ne m'ont jamais dit, en tout cas jamais signifié. J'écoutais plus Ace of Base. Mais c'est vrai que moi, je trouve que dans ces années-là, j'aurais pu être un enfant qui aurait dansé sur cette musique. Les petits enfants, tout le monde dit, il est mignon quand il danse. Ben, ça aurait été sur Bobby McFerrin.
Un peu comme ce qu'a dit Anna Girardot, vous voulez créer. D'ailleurs, vos parents vous disaient, sois créatif. C'était ça.
Ouais, mais moi, je voulais être CRS. Donc ça, c'était un truc. J'avais un truc, c'était vraiment pour faire chier mes parents. Je disais, moi, je veux être CRS. C'est vrai, en plus. Et mes parents qui bossaient à l'opéra,
j'étais
chef costumière dans un opéra national, mon père était chef déco et tout, et moi je leur dis, je vais être CRS, c'était vraiment juste pour les faire chier.
Moi je vous imagine bien en tenue de CRS avec votre
Fisher Price
en train d'écouter.
Exactement, c'est ça.
Et là il y aurait de l'ordre, monsieur.
Là voilà, c'est ça. Là il y aurait de l'ordre, mais après j'ai eu beau lutter contre ce truc-là d'opéra, de création, d'inventivité, au final j'y suis quand même arrivé tout seul, c'est venu à moi comme ça, je me suis rendu compte que je n'avais pas envie de tabasser les manifestants quoi.
Ça tombe bien, je sais un peu d'ailleurs, l'opéra c'était votre première émotion?
Oui, parce que j'ai grandi là-dedans, et ma mère était chef costumière à Strasbourg, l'opéra, et mon père était déco, il faisait de la scénographie. Donc j'allais tout le temps en répète et puis je faisais de la figuration. Dès que j'étais enfant, j'ai toujours fait un peu ça quoi, même beaucoup. Et à tel point, du coup, ça m'emmerdait. J'aimais pas l'opéra, je voyais ça.
Mais comment qualifier une première émotion quand on est enfant? Une émotion artistique, ça veut dire quoi exactement?
Moi, je pense que ce qui me rappellera toujours, ce qui me rappelle mes parents, c'est une voix lyrique qui chante, un truc comme ça quelle que soit la chanson, quel que soit le chant ou l'air, c'est toujours ça qui me rappelle. Ça, c'est une sorte de madeleine pour moi. Sur certains ont d'autres madeleines. Moi, c'est vraiment le chant lyrique. Et après, je me rappelle très bien de la première fois où je suis monté sur scène. J'avais 5 ans et j'étais habillé en petit ange et je devais juste récupérer des papiers sur scène et dire des noms. Enfin, je devais dire des noms. C'était à l'opéra et je me rappelle très bien parce que je me rappelle beaucoup de la lumière et je trouvais ça assez pas du tout anxiogène. C'était une sorte de moment un peu divin. Et en plus, je joue un petit ange. Donc c'était vraiment, tout le monde trouvait ça rigolo. Mais moi, je sais qu'aujourd'hui, c'est un truc dont je me rappellerai toute ma vie, comme ça, une espèce de, comme si je rentrais dans un four micro-ondes et qu'on allait me brûler vif.
C'était très agréable.
Cette sensation de micro-ondes géant.
C'était super poétique.
Et après, cuisiner la purée.
Et on revient à une forme de réalité terrible qui nous rattrape. Les micro-ondes géants.
Ça finit en nuggets.
Il pollue.
Justement, 2006-2007, départ pour New York, Anna Girardot, écoutez les Talking Heads. Psycho Killer. Qu'est-ce que c'est? David Byrne et son groupe les Talking Heads. Vous avez vécu comment New York là-bas? C'était d'abord, vous étiez protégé par une bande de potes. Vous étiez.
Ouais, j'avais une super bande de potes. C'était génial New York. C'était à 18 ans quand t'arrives là et que t'apprends tout, tu grandis 10 fois plus vite. T'as l'impression que la ville te nourrit tous les jours. T'as l'impression que tu vas la dévorer aussi. T'as envie de faire partie des murs, des gens. T'as quelque chose dans New York qui est un peu une sorte de ville d'accueil. Qui
ne dort jamais, il se passe toujours quelque chose et la lumière est présente en permanence.
En permanence, le bruit est présent en permanence et du coup toi t'es toujours en éveil et t'es toujours attiré. Moi je conseille à tous les gens de 18 ans, s'ils le peuvent, de partir à l'étranger de toute manière, mais s'ils peuvent aller à New York, c'est dingue comme ville. C'est génial.
Donc vous n'avez pas été déçu de la réputation de New York quand vous
pas
y étiez. Ça a duré 2 ans.
2 ans et demi, ouais. Après, je suis partie à Los Angeles, j'ai acheté un taxi new-yorkais. J'avais un garage grec en face de chez moi. Et j'ai acheté comme ça le taxi. Et
le Yellow Cab.
Ouais, le Yellow Cab qu'on a repeint. En noir parce que tu peux pas l'avoir en jaune.
Ah, on n'a pas le droit.
Non.
D'accord.
On a gardé quand même le.
Si on faut bosser après, c'est une galère.
Il y a des gens qui montent à l'arrière.
Des tours.
Ouais, à New York, ils s'arrêtent pas.
Non, j'avais gardé par contre le billet de 1$ que le taxi avait dans son.
Affiché.
Voilà, sur son plafond. Et je suis partie comme ça jusqu'à Los Angeles et je suis restée quelques mois avant de repartir.
C'est la superstition américaine de toujours garder le premier dollar qu'on gagne.
Exactement.
Pour continuer d'en gagner d'autres. Qu'avez-vous retenu des leçons de comédienne et d'actrice là-bas à New York?
J'ai rencontré Sheila Gray, qui est un professeur incroyable. Elle m'a poussée dans des moments où justement j'avais été habituée à ce que dès que ça commençait à devenir difficile, on avait le droit de s'échapper et de recommencer quelque chose. Et elle m'a dit, il en est hors de question. Elle m'a dit, les cours étaient chers, elle m'a dit, tu ne paieras plus tes cours. Tu viendras avec moi, tu vas venir tous les jours. Je veux que tu accueilles les élèves, que tu nettoies la salle, que tu ranges à la fin. Mais tu seras là à tous les cours.
Un échange marchandise, quoi, en fait. Vous aidez et vous ne payez pas. C'est ça?
Comme un déménagement, quoi. C'est pareil.
Et vous a appris quoi, alors? À ne rien lâcher?
À rien lâcher. C'est-à-dire, il y a des jours où l'anglais s'échappe, il y a des jours où on n'a plus envie, il y a des jours où on a plus confiance en nous. On perd des consonnes. Et elle était toujours là pour dire accroche-toi. Et à un moment donné, je me suis accrochée et il s'est passé quelque chose de dingue, j'ai progressé. Et c'est peut-être une des plus belles leçons que j'ai retenues à cet âge-là, c'est de me dire, ok, plus tu t'accroches, plus tu y arriveras, plus tu progresseras, et voilà.
Est-ce que d'apprendre des cours de comédie dans une autre langue pousse au contraire le travail de l'expression corporelle, du regard
Et c'est assez drôle de jouer dans une autre langue, on a l'impression qu'on a une autre voix ou une autre manière de s'exprimer. Donc un jour, il y a un élève français qui est venu, et elle a dit, génial, faites une impro en français. Et tout d'un coup, j'étais perdue, je savais plus où c'était compliqué de repasser au français. Donc, je sais pas si corporellement on utilise autre chose, mais en tout cas, il y a un autre masque qu'on met sur son visage.
Et puis la musique est pas la même.
Et la musique est pas la même, ouais.
C'est ça. Dans ces années-là, 2000, j'étais en combien là? 2009, très bien. Pio Marmaille, écoutez. J'adore. on en parlait avant l'émission.
Regardez danser les gens, j'y retourne souvent, au bar du Luxor.
Philippe Catherine, Luxor, j'adore. Ça vous laisse perdre perplexe.
Ça me laisse perplexe parce que je me demande pourquoi j'ai choisi Philippe Catherine. Alors je sais.
Vous allez faire ça à chaque chanson parce que
non, mais je pense que c'est.
Là, vous écoutez quoi?
Je pense que c'est. C'est ça. J'avais mon Fisher Price en 2009. Non, non, c'est pas ça. Non, je pense que moi, j'aime bien le mec. En fait, j'aime bien ce qui générait comme travail, comme en tout cas comme excès, comme direction de musicale et humaine comme ça. J'aime beaucoup.
Ouais, et puis les fringues, la création.
Ouais, il y avait des costumes vraiment assez comme ça. Je me dis, ah, sacré loulou, sacré zozo.
Sacré loulou.
Ouais, je pense que j'ai dû faire la fête. Sacré loulou. Peut-être j'ai dû faire la fête aussi beaucoup là-dessus.
Tout mais... ça en écoutant Ace of Base.
Imaginons. Philippe Catherine avec mon Fisher Price et j'en passe. Mais non, je vois, c'est plus un truc d'énergie, je dirais, qu'il y avait à l'époque. En tout cas, quand je pense à ce moment-là, il y avait. Parce que moi, j'ai toujours été beaucoup plus dans le hardcore, le rock dur. Ouais. Et c'est vrai que si j'avais passé que des morceaux un peu hardos, on m'aurait dit, bon Dieu, mais bon Dieu.
Attends,
tu es en train de faire chuter l'audimail.
Tout à l'heure, vous en aurez un morceau comme ça. Aussi, ouais, j'en ai prévu un.
La création, justement, c'est de la compagnie théâtrale, la Quincaillerie Moderne, que vous avez cofondée.
Oui, quand je suis sorti de l'école de Saint-Étienne. Oui, on avait fondé ce collectif. En fait, c'était sortait d'école
après le Centre national d'art dramatique.
Ouais, sortait d'école nationale et puis on il y avait vraiment et ça rejoint un peu Philippe Catherine, je pense. Il y avait ce moment un peu comme ça d'insouciance, de création non-stop. Mmh. On faisait beaucoup de spectacles. On faisait des chroniques toutes les semaines dans un théâtre. Il y avait un truc comme ça très ouais, avec un petit hamster d'ailleurs qui incarnait un des spots qui contraignait dans une petite voiture téléguidée et il est mort. Je vous assure que c'est vrai, il est décédé après un spectacle parce qu'il y avait vachement de musique. Paf, il a fait un arrêt cardiaque. Il est décédé. C'est vrai que c'est un peu dur.
Enfin, en tous les cas,
parenthèse faite. Non, c'est vrai qu'il y avait un moment comme ça, un peu d'insouciance où on crée énormément de choses. Aujourd'hui, c'est j'ai l'impression que j'ai perdu un peu cette sorte d'utopie. Je sais pas pourquoi. C'est un peu un aveu chiant que je fais ce matin. Mais c'est vrai que je me dis merde, j'espère enfin ne pas avoir complètement perdu cette.
Elle est forcément là, mais oui, elle est forcément un peu plus cachée peut-être parce ouais. que planning, parce que garantie,
parce que carapace sociale,
parce que talent, parce que carrière, c'est tout.
Peut-être que vont faire une immersion chez les CRS pour rappeler l'enfance
en écoutant Ace of Base, les deux en même temps. Ouais. Nous avons demandé à Véronique Barthe, merci Véronique de venir à ce micro, nous parler de l'art de faire du vin et aussi de la place des femmes justement dans ce milieu viticole. Vous êtes propriétaire du château La Fresnelle dans l'Entre-deux-Mers. Alors là, on est plutôt du côté de Bordeaux que de Bourgogne, avec le château d'Arcole également en Saint-Émilion. Tout cela sont des grands crus. D'ailleurs, ce que l'on voit dans le film, c'est que sur une même terre, il y a plusieurs classifications.
C'est pas genre des classifications,
ah,
oui.
Des
appellations.
Voilà, c'est ça. Alors que c'est la même terre, c'est le même soleil, c'est le même savoir-faire, non ?
C'est pas tout à fait la même terre, c'est pas tout à fait le même terroir. C'est ce que vous en parlez un petit peu dans le film, entre le haut de la parcelle et le bas de la parcelle.
Le soleil n'est pas le même.
Non, mais les raisins ne vont pas mûrir de la même manière. Le haut de la parcelle sera peut-être plus mûr, plus tôt. Et c'est vrai que les terroirs varient très très rapidement.
Alors en 91, comme vous êtes l'aînée de...
Je suis la plus petite.
Ah pardon, c'est l'inverse
oui.
alors, d'accord. Donc vous êtes la plus petite,
oui.
Mais vous êtes la première fille à vous occuper du domaine dans la famille.
Tout à fait.
C'est parce que c'est une famille qui règne dans la viticulture depuis combien de temps ?
Je suis la septième génération.
Wow, donc là une pression supplémentaire pour ne pas décevoir.
Oui et non, parce que on m'a jamais mis la pression pour que je reprenne la propriété, et ça s'est fait. C'est la vie qui nous a poussé à ce que ce soit comme ça.
Vous Donc, avez des de frères pression. Et des sœurs ?
J'ai deux frères plus âgés.
Et qui eux ne voulaient pas du tout le.
Et qui eux
le faire.
N'avaient non, voulaient pas vraiment reprendre, et ça a pu se faire parce qu'on s'entendait très bien. Là, c'est ce qu'on a vu aussi, ce que j'ai vu, puisque j'ai eu la chance de voir le film en avant-première. Et c'est ça, quoi. Il peut y avoir transmission s'il y a une fratrie qui s'entend bien. Sinon,
alors,
c'est...
Votre métier est un métier de... Vous êtes viticultrice, vigneronne, qu'est-ce que je dois dire ?
Je suis vigneronne, puisque je ne fais pas que produire des raisins. Je vais jusqu'au bout du produit,
d'accord.
jusqu'à la mise en bouteille, jusqu'à la promotion, la vente.
Alors qu'un viticulteur
tout.
Ne fait...
Alors qu'un viticulteur, c'est comme un agriculteur, il d'accord. ne fait que produire le raisin.
La culture et
même. Et il l'apporte...
Voilà, c'est que la culture.
Et il l'apporte à une coopérative qui après va faire ce qu'elle a à faire.
Voilà, tout
d'accord.
à fait.
Et donc vous êtes venu les mains vides.
Non.
Mais ça va pas,
non. Si. Genre, j'ai pas osé les amener.
Si, mais osé.
Mais il est 11h52, moi je pense que c'est l'heure de l'apéro. On est déjà un petit peu en retard pour l'apéro.
On n'entend pas Pio sur le sujet.
Non, j'étais en train de me reculer du micro en disant putain, c'est pas vrai.
On va boire.
Est-ce que vous aviez envisagé d'avoir une autre carrière, de faire un autre métier?
Ah oui, tout à fait. Moi, au départ, je voulais pas du tout reprendre la propriété. Je suis partie aux États-Unis. Alors, j'étais pas à New York, j'étais à Denver, dans le Colorado, donc où ça bouge un petit peu moins quand même, parce que je savais pas ce que je voulais faire. Donc, je suis partie pour déjà apprendre l'anglais et puis pour voir ce que je pourrais faire.
Mais alors, pardon, si vous n'aviez pas poursuivi et porté tout le travail de siècles de famille. Qu'est-ce qui se passait? Ça partait en poussière, c'était vendu encore à des...
Est-ce que c'est le poids des droits de succession qui vous a fait hésiter ou pas?
Non, pas du tout. C'est que je pensais qu'il n'y avait pas... que tout était déjà fait, tout était déjà en place et qu'il n'y avait rien à créer. Et je voulais... quand je suis revenue des États-Unis, je voulais monter, c'était dans les années 85, et je voulais monter des pizzas à domicile ou des éléphants bleus. Là, ça se faisait pas du tout.
Les carouaches.
Ça se faisait pas du tout en France à cette époque. Et je me suis dit, tiens, voilà ce que je vais faire. Je ramène des idées des États-Unis. Et ma mère m'a dit,
c'est bien.
En tout
cas, vous aviez envie d'entreprendre, en tout cas.
Voilà, j'avais envie d'entreprendre.
Maman dit, c'est bien,
mais il faudrait quand même que tu aies un petit bagage en gestion d'entreprise, et puis tu verras, peut-être regarde, tu pourrais peut-être nous aider à faire la première étiquette. Et puis en fait, c'est un métier de passion, donc quand vous commencez à vous y intéresser, vous
êtes fait avoir en fait.
Voilà, mais je regrette pas, hein, à aucun moment.
Avez eu la chance comme nous donc de voir le film Ce qui nous lie avant sa sortie mercredi prochain. Est-ce qu'il reflète bien la vie que vous connaissez dans les vignes?
Oui, il y a des moments très bien vu, comme le choix de la date des vendanges. C'est quelque chose de fort dans le film, et c'est quelque chose de très important.
C'est vraiment au jour près.
Oui, c'est incroyable. Ouais.
C'est-à-dire qu'il y a une vraie différence si on choisit de commencer les vendanges mardi ou jeudi.
Oui, c'est ça.
Ça nous paraît absurde, mais non.
C'est réel.
Et quelle est la réelle différence? La vinification,
ça dépend du type de vin que vous voulez faire, mais il faut que votre raisin corresponde au vin que vous voulez faire.
Et donc, il y a des envies, dans le film, on le voit, il y a le choix du vin qu'on veut faire. Soit on veut faire une sorte de vin facile, j'imagine, se vend plus facilement, ou qui attend moins une forme de palais d'amateur.
Tout à fait. Oui, oui. Vous avez. D'ailleurs, j'ai la chance de pouvoir faire des Bordeaux blancs qui sont bu dans l'année ou dans les deux ans, des vins sur le fruit, des vins faciles, et à Saint-Émilion, un Saint-Émilion Grand Cru, qui est destiné à vieillir plus longtemps et à attendre un petit peu. Et c'est vrai qu'il y a autant de vins que de goûts et que de manières de vinifier, que de dates de vendange.
Et comme on le voit dans le film, il n'y a pas un jour où il n'y a rien à faire.
Oui, ça c'est vrai. Les gens ont l'impression que l'on travaille que pendant la période des vendanges, alors que pas du tout. C'est vrai que c'est l'aboutissement de la culture du raisin, et c'est le début de la grande aventure des vinifications. Mais il y a du travail tous les jours.
Donc vous avez aimé le film?
Ah, j'ai adoré.
D'accord.
J'adore.
Voilà, on est déjà de nombreux.
On est plusieurs.
On est plusieurs autour de cette table. Non, c'est vraiment, c'est un bon film. Et contrairement au bon vin, il faut pas attendre avant de le consommer. Il faut y aller.
Sans modération.
Mercredi.
Yes.
Est-ce que c'est pas la phrase de l'émission?
Est-ce que vous avez déjà, est-ce
c'est
que vous avez,
facile, faut le voir tout de suite.
Vous avez déjà prévu,
c'est ça.
Tout de suite.
Est-ce que vous avez déjà prévu de confier l'exploitation à vos enfants?
Alors, c'est pas prévu. C'est vrai que j'ai mon fils aîné qui fait des études de viticulture œnologie, donc on pourrait penser, c'est un petit voilà. Mais surtout, je veux pas lui mettre du tout de pression, parce que c'est quand même un métier difficile. Il a deux sœurs aussi, donc à chaque fois, il faut gérer aussi la transmission. Et puis, il faut pas de pression.
C'est ce qu'on voit dans le film, l'indivision, tout ça, c'est important. Le patrimoine,
c'est un film qui apporte des solutions peut-être. Allez le voir.
Sans modération. Merci mille fois d'avoir pris le temps de venir à ce micro.
On va vous trouver un tire-bouchon.
On voit bien Daniel Morin.
J'ai même de la capsule à vis, vous allez voir, ça va bien se
passer. Le métier de la vie ne cesse d'évoluer techniquement, mais reste un métier noble, un métier de la terre. C'est le patrimoine qui est en jeu, c'est l'histoire de la famille, c'est la transmission.
Putain, le salopio. La transmission. Alcoolique et pétainiste dans la même phrase, on dirait moi le 14 juillet.
La transmission.
Chapeau bas, maréchal Poivreau. Le mix parfait, taisez-vous, entre Radio Courtoisie et RMC. Ça sent le mercato radio, tout ça. Hein. Radio Courtoisie, la radio de Monsieur Guy. Ce sera l'année prochaine, ça, j'imagine. Enfin, bref. Alors, non, Monsieur Guy, avec les techniques qui évoluent, le vin est en train de crever. Fini le picrate sincère. Celui qui rendait aveugle et tremblant faisait ressembler à Tom Villa après un après-midi passé avec mes enfants. Terminé la piquette qui fait mal au gossier à l'aller et brûle aussi à la sortie. Aujourd'hui, on boit du biodynamique 1000% équitablo gaucho, bref, de la merde politiquement correcte. Non, aujourd'hui, l'avenir, c'est le vignoble Monsanto. Une pulvérisation par an de l'engrais pesticide Pinardo 22 sur n'importe quel végétal donnera 5 fois par an de juteuses grappes goûteuses qui, après une vinification de 24 heures, auront toutes des arômes de phosphate, de chlore, de Beaujolais, avec une petite note de terroir qu'on appelle l'arrière-goût de caca. C'est ça le véritable avenir du Pinard, Monsieur Guy. Il n'y a plus de noblesse, il n'y a plus de terre, il n'y a plus rien, si ce n'est la cirrhose qui, elle, fait partie de notre vrai patrimoine. Une fois encore, je suis désolé, mais force est de constater que vous avez dit
n'importe quoi. Merci Daniel Morin, Thomas Maël et Anna Gérard sur le système de vie.
Tim.
Eh oui, vite.
Soyez les bienvenus avec les Lacan de Boudhabi.
Bonjour à tous.
Sora Hamzaoui, Daniel Morin, Tom Villa.
Bonjour.
Et nos invités, Anna Girardot et Thomas Maille. On a eu la chance de voir ce qui nous lie, le nouveau film de Clapiche. J'aime bien, on dit le nouveau Clapiche comme si il y avait quelque chose qui était estampillé. Ouais. Mmh. D'ailleurs, Clapiche, pour vous, dans votre esprit, Anna Girardot, ça voulait dire quoi? Ça résonnait quel genre de film?
Ah, pour moi, ça fait partie des meilleurs réalisateurs français. Pour moi, c'est mon paysage cinématographique. C'est des films qui sont devenus cultes pour ma génération. C'est des répliques, c'est des manières de penser. C'est des films qui m'ont donné envie de voyager, qui m'ont... Donc c'est un réalisateur avec qui je rêvais de travailler, et en plus humainement, maintenant que je le connais, c'est quelqu'un qui est formidable. Donc moi je suis très contente.
Et vous, Pio, quelle image vous aviez de la marque Clapiche, puisque on dit c'est le nouveau Clapiche, comme si c'était une marque et pas un être humain.
Je dirais pas que c'est une marque. Enfin nous chez CRS, on aime à dire que c'est un cinéma qui en a dans le caleçon, quoi. C'est quelque chose. Non, je pense que c'est plus quelqu'un qui a un regard sur une société, sur une jeunesse, quoi, sur des au-delà même des événements et des histoires qu'il raconte. C'est vraiment un regard assez bienveillant et assez juste, je trouve. D'une certaine époque, d'une certaine période, quoi.
À ce micro, alors qu'il était encore en tournage, il était venu justement nous parler de ce film.
Quand j'ai fait Ce qui nous lie, donc le film qui va sortir en juin.
Sur le monde du vin.
Sur le monde du vin.
D'où le jeu de mots.
Au départ, je savais que je voulais faire...
On verra après le jeu de mots. Voilà.
Sur Ce qui nous lie.
C'est un retour.
Non, au début, je savais que je voulais faire un film sur le vin, mais je savais pas exactement ce que serait l'histoire. Donc j'ai vraiment inventé l'histoire avec justement ce travail photographique, puis le travail avec les acteurs.
Est-ce que c'est une histoire qui lui colle extrêmement à la peau? C'est son père qui l'avait amené au monde viticole?
C'est son père qui l'avait amené en Bourgogne, et son père ne buvait que du vin de Bourgogne. Et donc je pense que c'est une histoire qui lui tenait à cœur, et en tout cas une région qui lui tenait à cœur.
Et le mode de tournage, encore une fois, c'est très impressionnant. Ce ne sont pas des effets spéciaux, ce ne sont pas des images d'archives utilisées en disant tiens, bah, je vais prendre une image de vigne sous la neige. Pas du tout. Le tournage s'est réellement passé pendant ces 4 saisons. Et il l'a conçu, puisqu'on avait parlé de la photo également avec Cédric Clapiche, le cadrage, la lumière, la manière dont il a fait ce film, c'est d'une beauté absolument essentielle. Là aussi, il nous avait parlé à la fois de la facilité ou de la difficulté à tourner et à filmer ce film.
C'était un film qui était difficile à faire parce qu'il fallait être patient. Et ça a été un film très facile à faire parce qu'il y avait quelque chose d'assez gracieux dans le rapport entre les gens, tous les gens de l'équipe. Je sais pas si c'est le vin qui a fait ça, mais entre...
Ouais, dans quel état il faut être pour voir le film?
Sobre.
On peut être à jeun.
Et puis après, vous faites ce que vous voulez.
Véronique Barthes nous l'a dit tout à l'heure, elle qui est propriétaire de plusieurs châteaux dans le Bordelais. Le film explique bien le travail, l'inquiétude, l'angoisse de la météo, les rapports. On n'a pas parlé de ça avec elle tout à l'heure, mais le rapport de voisinage aussi. J'ai halluciné, mais ça, donc ça doit être vrai. Un pied de vigne peut être à 50 cm de celui du propriétaire voisin. Il n'y a pas de clôture, il n'y a pas de limite.
Il y a des petits, en général, c'est des petits bouts de, pas de papier, mais des petits bouts de plastique comme ça qui sont au début
de couleur ou qui montrent. Couleurs, voilà.
Et après, c'est vrai, mais j'en ai parlé avec Jean-Marc Rouleau aussi. Jean-Marc Rouleau qui interprète le rôle de Marcel dans le film, qui est un peu notre gérant de.
Le référent.
Notre référent, si vous voulez, dans la famille, en tout cas, dans le château, enfin dans le château, dans la propriété. Et lui, il est aussi vigneron. Il fait un excellent morceau, en l'occurrence. Et il nous expliquait que ça lui arrivait, en fait, que ces vignerons vendangent des vignes qui n'étaient pas les siennes. Et c'est vrai que ça peut, c'est pas de leur faute, quoi, ils n'ont pas forcément remarqué, mais ça peut générer des tensions assez fortes, quoi. Et c'est aussi par rapport au traitement, parce qu'il y a des vins qui sont forts en dynamique.
Voilà, bio ou pas bio.
D'autres qui sont sulfatés à mort. Et c'est vrai que d'un rang à l'autre, c'est vrai que parfois il y a des mecs qui peuvent se tromper, qui peuvent sulfater à donf un rang et pas l'autre, quoi. Et c'est vrai que quand on fait de la biodynamique, on fait un cet effort, c'est-à-dire que c'est vraiment ça, c'est beaucoup plus compliqué, ça demande beaucoup plus d'argent, beaucoup plus de temps, beaucoup plus de sacrifices que faire un vin qui est sulfaté. Enfin, en tout cas, beaucoup plus. Ça peut être très, je pense, très. Ça te fout dans les états de tension. Maximum.
Pourquoi vous avez toujours cherché un accent?
Je sais pas, c'est ce que je suis en train de dire parce que je me suis dit, il y a un
flicaille, hein.
Alors, parce qu'il y a assez flicaille, c'est un truc qui me poursuit toute la matinée, ça me poursuit, quoi.
Oui, j'ai l'impression, ouais.
Parce que je suis à l'aise.
Changez rien. Il y a dans ce film aussi Maria Valverde, Florence Pernel, je l'ai dit, Jean-Marc Rouleau, vous l'avez cité, Eric Caravaca, Kadija Touré, François Civil, Anna Girardot et Pio Marmaille qui sont tous les deux nos invités, mais c'est vrai que le trio François, Pio, Anna est absolument remarquable. Vous êtes de toute façon tous les trois de très bons comédiens et pas uniquement devant la caméra de Clapiche, mais vous apportez vraiment quelque chose de juste, d'agréable. On a envie d'en faire partie de cette famille, on a envie de venir au vendange, on a envie de goûter le vin que vous avez fait, parce qu'il y a, une dose d'amour, il y a beaucoup de vie et c'est un bon film, c'est un putain de film qu'il faut absolument que vous alliez voir. Ce qui nous
dit, fait du bien,
c'est
toi,
mercredi. J'ai adoré. Non, mais j'ai adoré parce que j'ai eu envie de pleurer, j'ai envie de rire, j'ai eu envie de partager. Non, c'est un film extrêmement fort que vous ne, à côté duquel vous ne devez pas passer. Contrairement à Daniel Morin, que voici.
Allez, législative 2017.
Aïe!
Les forces de l'empereur de la galaxie France semblent inarrêtables. Hier, les résultats du premier tour de législative donnent une majorité écrasante à Emmanuel Jupiter Macron. Les victimes s'appellent les Républicains, 15,77%, nettoyés de la carte parlementaire. Les socialistes, 7,44%, atomisés du paysage politique. Le parti de Jupiter, plus de 28%. Les 4% du capitaine Bayrou, il en a plus besoin. Dans 6 jours, il ne le sait pas encore, mais il sera expulsé dans l'hyperespace pour rejoindre les armées de zombies politiques condamnés à gravité sans fin autour de la planète, sans espoir d'y revenir jamais. Prochain défi pour Jupiter Emmanuel, la présidence de l'Europe, puis la conquête du monde. À suivre la domination de la galaxie et enfin, couronnement suprême, la présidence de Radio France. Et je vais vous dire un truc, je le sens, je suis sûr que Macron va gagner Roland-Garros 11 fois. J'en suis sûr. Assez par les chiffons, parlons actu brûlante. Aujourd'hui, 12 juin, c'est la journée mondiale contre le travail des enfants. Alors, mobilisons-nous, luttons contre cette journée à la con. Vous savez combien ça coûterait un iPhone si c'était un salarié adulte avec cotisation sociale pour l'entreprise, durée limitée du temps de travail et majoration des heures sup? Hein? Vous savez combien ça coûterait? Une fortune. Vous voulez reprendre votre vieux Nokia, c'est ça? Ou votre Bebop? Hein? C'est ça que vous voulez? Non, bon alors faites pas chier, laissez bosser les enfants. Comme dirait Henri Guénaud, tous ces gens qui veulent priver les gosses de travail, ça me donne envie de vomir! Voilà. Nagui, vous croyez qu'il leur a enlevé leur lait? C'est à Bim Bim et Bam Bam, les deux petits esclaves philippins, pour qui il sert 2 gamelles de cornflakes par jour pour entretenir son jardinet de 11 hectares? Non! Il les a pas détachés. Non, il marque quand même le coup de cette journée spéciale en leur mettant exceptionnellement ce matin du lait dans le bol de cornflakes. Nagui est un tyran, certes, mais pas un monstre non plus. Alors, pour revenir à l'actualité de première bourre. Avec la proximité des vacances d'été, on nous livre des études plus passionnantes les unes que les autres. On apprend entre autres que 35% des Français partent en vacances, attention, avec leur oreiller. Alors, s'il vous plaît, par pitié, allons au-delà du caractère totalement inintéressant de cette info. 35% des gens qui partent en vacances avec leur oreiller, moi, ça m'angoisse. Ça m'angoisse de savoir que plus d'un tiers des gens que je croise veulent absolument partir en vacances avec leur oreiller. Non, mais t'imagines ? Jean-Claude, il n'y a plus de place dans la bagnole, on est plein de chez plein, on va être obligé de laisser ton oreiller. Non ! Non, si c'est ça, je pars pas, je m'en fous, je reste à la maison. Sois pas ridicule, Jean-Claude, là où on va, je suis sûr qu'il y a des oreillers super. C'est ça, pour j'attrape la lèpre, merci bien. On va à Deauville, Jean-Claude. Il n'y a pas la lèpre à Deauville. Je m'en fous, je prends mon oreiller. On n'a qu'à laisser les enfants. Décidément, les amis, je suis désolé, mais on est entouré de cons, j'ai peur, rien. À demain.
Merci, Anna Girardot à l'affiche de ce film, ce qui nous lie mercredi, mais vous venez également de terminer le tournage de Bonhomme, un film aux côtés de Nicolas Duvauchel. Quel est votre personnage ?
Je joue Marilyn, nous jouons un couple à qui il arrive un drame, on a un accident de voiture et le personnage de Nicolas, Piotr, devient traumatisé frontal. On appelle ça le syndrome invisible, c'est-à-dire que physiquement, il est exactement le même, sauf qu'il a 5 ans dans la tête et puis 15 ans dans le caleçon. Et c'est compliqué à gérer. Et mon personnage est complètement amoureuse de lui et se jette à corps perdu dans cette relation en se disant que tout va bien se passer, rien ne va changer. Voilà.
Vous serez également à l'affiche de Knock, cette fois-ci aux côtés de Omar Sy et Alex Lutz. Vous êtes l'une des patientes du docteur ou...
Une des patientes, entre autres.
Bon, point de suspension, voilà. À voir. Et le 13 décembre, vous serez dans Soleil battant, aux côtés d'Agathe Bonitzer. Beaucoup de cinéma, pas de théâtre. Pas l'envie, pas de projet, ou au contraire, ça...
Alors, le théâtre, moi, j'avais joué au théâtre avec Nicolas Briançon, Roméo Juliette. J'avais trouvé ça formidable. J'avais jamais fait de théâtre. Je venais pas du théâtre. Donc, c'est toujours compliqué quand on vient pas de ces écoles-là de venir taper à la porte. Et Nicolas Briançon était venu vers moi, ce qui m'avait paru miraculeux. C'est une expérience très forte. Ça m'a beaucoup appris et j'aime beaucoup ça et je retenterai avec grand plaisir de l'expérience.
Le 21 juin, quant à vous, on l'a dit, on l'a parlé tout à l'heure, Pio Marmaille, de ce film Chaos de Fabrice Gobert, où vous êtes aux côtés de Laurent Lafitte, Chiara Mastroianni, un film totalement barré, totalement dingue, sur entre autres le milieu de la télé, mais enfin il pourrait être dans un autre milieu, sauf que ça vient pas aider le fait que ce soit dans le milieu de la télé, à ce que ce soit moins barré. Il y a également Santa et compagnie, un film d'Alain Chabat.
Alain Chabat.
Ouais. Je refais
retour de l'accent qui revient en puissance. Un film d'Alain Chabat que j'ai fini vendredi dernier, ouais.
Ah génial, alors racontez-nous, vous faites quoi ?
Alors, c'est l'histoire du... Bon, ça... Genre, je peux évidemment pas lire parce que tout non, est secret, évidemment.
Il a commencé à teaser un tout petit peu.
Oui, c'est une histoire... En tout cas, il s'agit du Père Noël. Ouais. Il s'agit d'une histoire du Père Noël qui doit arriver sur Terre pour récupérer quelque chose. Et il atterrit sur un toit d'immeuble, à savoir au-dessus de chez moi-même. Et je vais aider. Voilà. Donc, je peux pas pitcher plus que ça. Mais en tous les cas...
Ok, très bien.
Je pense qu'on devrait pas mal rigoler.
Et qui sortira donc le 6 décembre, je le rappelle. Oui. Ensuite, il y a Remise de peine aux côtés d'Audrey Tautou.
Oui.
C'est une comédie romantique ou c'est...
D'Adèle Haenel.
Très
c'est
bien.
Un film de Pierre Salvadori.
J'avais que Audrey Tautou comme nom, pardon.
Oh putain, j'ai fait une boulette. C'est un film de Pierre Salvadori avec qui j'avais fait Dans la cour il y a quelques années. C'était un tournage complètement qui m'a saisi. Je pense qu'il y a un avant et un après dans ma vie avec ce film. En tant que travaillant sur ce film.
Visiblement, là, on est après. T'as l'accent de quoi?
Oui, c'est ça. Je pense D'accord. que je suis après.
Ok. Ce qui nous lie, en tout cas, c'est maintenant que ça se passe. C'est ce mercredi, le film, le nouveau Cédric Lapiche avec Anna Girardot et Pio Marmaille, pour lesquels vous avez concocté un brouillon de culture sur mesure.
C'est parti. Oui, je vous sors de la promo tous les deux. Un bol d'air, c'est notre brouillon de culture, histoire d'apprendre à mieux vous connaître. Et on commence par un premier son pour vous, Anna. Bienvenue Anna.
Oui, MGMT.
Oui, It's Working de MGMT. Et vous apparaissez dans le clip. Je vous ai trouvé là.
Très bien, bravo.
Voilà. Comment est-ce que vous vous êtes retrouvée dans cette histoire?
Alors c'est Somi, le réalisateur que je connaissais bien, qui m'a demandé si je voulais jouer dans son clip. J'étais fan de MGMT, donc j'ai dit oui tout de suite. Et c'était chouette. C'était c'était marrant à faire. J'aime bien faire les clips. C'est comme des courts-métrages, mais il y a une autre approche artistique qui est très intéressante.
Vous en avez fait d'autres?
J'avais fait les Cooks, ouais, quand j'étais à New York.
Bien.
Ouais. Et c'est tout. Voilà.
Bah ça va, c'est des bons
MGMT et les Cooks.
Ouais, c'est chic.
Et s'il fallait faire un autre clip, pour quel groupe ce serait?
Les Musclés.
Dans le rêve. Ah oui, les Musclés.
Ace of Base.
Dans Vampire Weekends.
Ah ouais.
Voilà.
Ils sont new-yorkais aussi, je crois, non?
Je crois, oui. Ouais, ouais.
Et j'ai lu que votre modèle féminin était une chanteuse, Beyoncé.
Pas Rihanna?
On en dit des conneries. Attends. Mais non, pas Rihanna. Si, mais moi, j'aime bien la philosophie de Beyoncé. J'aime bien ce
qui
côté.
Danser en culotte.
Mais
non,
pas du tout. Quelle
est donc cette philosophie?
Non, laisse-la terminer. Parce que
non,
c'est. Vrai qu'il y a une
Elle a ce mérite de elle travaille, elle se défonce quoi, tous les jours elle bosse, elle répète et elle donne tout pour son métier, pour sa passion, et je trouve que c'est un bon exemple pour les jeunes filles qui l'écoutent, c'est-à-dire que ouais, défonce-toi et tu verras, tu arriveras là où tu veux aller.
Faire voilà. L'effort comme avec votre prof à New York.
Exactement.
Quoi. Persévérer.
Voilà, persévère.
Ouais, c'est l'idée. Vous côté musique, Pio on l'a évoqué, mais on va écouter, vous êtes un peu plus punk hardcore. C'est Vomit for Breakfast.
Pourquoi ils jouent pas ensemble?
Guy, je vous trouve un peu dur. Vous avez écouté que les 10 premières secondes.
Il n'y a plus l'accent du sud. Hein, ça rigole.
J'ai essayé de faire un personnage un peu plus poche.
Écoutez,
physiquement, j'essaie d'incarner quelque chose.
Ouais. Écoutez, je m'excuse, la bouche un peu pincée.
Vous produisez même des groupes, Pio Marmaille. Oui. Vous n'arrêtez pas simplement à écouter. Quel genre de groupe vous produisez? On les trouve sur quelle scène?
Alors, produire, c'est un bien grand mot. C'est juste que j'aide financièrement des groupes de hardcore, effectivement, à presser des vinyles. Après, j'ai pas de regard sur le travail.
Ça s'appelle produire.
Oui, mais si vous voulez, je leur fais totalement confiance. C'est-à-dire que je ne vais pas leur dire ça me fait un peu chier. Quoique maintenant, j'en parle un peu plus. Non, là, par exemple, je pensais à Red Star by Night, par exemple, un groupe qui a enregistré il y a 3 jours, donc j'écoutais, c'est vrai, les débuts des mixages, et je disais je suis juste curieux, je suis aussi content de participer comme ça aussi à des projets assez singuliers à la base.
Ouais. L'idée c'est ça, parce que j'imagine que vous ne faites pas d'argent
zéro, j'en perds un max, voilà,
c'est ça l'idée.
C'est pas une question de fric, c'est une question de passion.
Être au contact avec ces artistes-là, être au plus près de la scène.
Et beaucoup de concerts, ouais. En fait, j'ai rencontré le milieu du hardcore à Saint-Etienne, là où je faisais mes études. Et c'est ça qui m'a donné aussi envie de travailler dans l'actorat de cette manière-là. C'est-à-dire que j'ai trouvé une telle générosité, une telle énergie quand je voyais des mecs comme ça jouer sur scène. Et dans des sets de 12 minutes, donc c'est vraiment très très dense, que je me disais à chaque fois, si moi j'arrive pas à faire ça à mon endroit de fabrication et de création, il vaut mieux que j'arrête. C'est pas non plus de l'hystérie, hein, tout est très cadré, techniquement c'est très très dur un jeu comme musique. Et pour un néophyte, on a l'impression effectivement que c'est un peu désynchronisé, mais au contraire, c'est vraiment très très dur. Et du coup, j'aime beaucoup ça, quoi. Et personne ne se saute dessus avec des couteaux en se visant les yeux, c'est pas du tout l'idée.
Ouais.
C'est un truc vraiment de mélomane.
Dommage. Et vous chantez? Ou vous jouez d'un instrument?
Ouais, j'ai joué de l'accordéon quand j'étais un peu ado.
De l'accordéon?
Ouais, je sais, parce que j'ai tout fait. Et je faisais du roller et tout petit quanto, mais bon.
Avec
Ace of Base. Et l'accordéon et le truc et le four à micro-ondes. Enfin bon, bref. Ne nous égarons pas.
Et Elastic Man.
J'avais oublié Elastic Man.
Il y a un monde.
Excusez-moi.
Qui était en démonstration à cuisiner.
On poursuit avec un nouveau son, encore pour vous, Pio.
Georges, ça va être un Shivers. Donc avec cette bande, il faut que je t'explique un truc. Tu peux être out en moins de 2 secondes. Est-ce que tu comprends quand je t'ai dit out?
De ne plus dedans.
Toi, tu crains
LA, LA.
Toi, tu crains à mort même. Tu crains à l'infini. Mais regarde-moi ce visage un peu, il est même pas refait. Tu peux plus traîner avec toi, tu comprends? Tu seras jamais un Shivers.
Shivers, Shivers.
C'est un extrait de la BA de Steak de Quentin Dupieux avec Eric et Ramzy. Quentin Dupieux à qui on doit aussi Ruber, Wrong Corps. Et j'ai lu que c'est le genre de réalisateur, Pio Marmaille, avec qui vous adoreriez travailler.
Oui, après je le connais pas personnellement, mais en tout cas j'aime ses films. Ouais, donc
Steak, c'est génial.
Ouais. Puis je trouve qu'il y a une il y a vraiment un truc, une patte singulière dans chacun de ces films. Après, je n'ai pas aimé tous ces films. Je suis juste curieux des rares artistes qui restent encore, qui existent. Enfin, je suis assez dur. Mais il y a vraiment un sens de la mise en scène, en tout cas du propos, de me dire, même si ça peut être maladroit, mais ça peut être à côté de quelque chose, au moins je suis devant un objet qui m'interpelle, quoi, à un endroit. Mais il y a d'autres metteurs en scène avec qui j'ai envie de travailler. Enfin, en tout cas, et surtout avant, je n'osais pas le dire. Aujourd'hui, je vais voir les gens et je leur dis, j'ai envie de travailler avec vous.
Alors, ce serait qui? Parce que je pense que, à chaque fois dans les interviews, je trouve que c'est toujours assez pointu, les références. C'est Roy Anderson, c'est Pierre Scheller. Enfin, c'est pas dans, nécessairement oui. mainstream, quoi.
Ah, non, mais en même temps, vous avez vu Tony Erdmann?
Ouais. Marraine à deux, allemande.
Pardon, c'est un film allemand, si vous voulez, mais qui a quand même marché en France. C'est pas forcément du mainstream, mais c'est pas grave. Après, c'est un film qui est tout à fait abordable, je veux dire.
Mais j'entends par là des réalisateurs qui ont un véritable univers.
Est-ce que j'ai envie de faire j'irai peut-être pas vers Babysitting 3 tout de suite, tu vois. Ouais. C'est pas l'idée, quoi. Enfin, en tout cas, c'est pas. Moi, c'est pas un film. Enfin, c'est pas un univers qui me passionne tout de suite, moi. Je suis assez cash, hein, je vais vous dire la vérité. Après, ça veut pas pour autant dire que je vais vers des trucs hyper pointus. Mm-hmm. J'aime juste quand je vois de la pudeur au cinéma, quand je vois un peu d'humanité, quand je vois des gens qui sont qui ont pas peur de rater. C'est ça que j'aime bien, moi, les gens qui ratent un peu. Je préfère ça.
Et à qui récemment vous avez dit que vous aviez envie de travailler avec lui, puisque maintenant vous êtes dans cette ouverture-là.
À qui j'ai dit par exemple, je l'ai dit après en retard, parce que quand j'ai travaillé avec Alain Chabat, je lui ai dit après coup, tu sais, Alain, si j'avais pu le dire avant que tu me dises, est-ce que tu veux travailler avec moi, je te l'aurais dit. Donc c'est un peu, alors c'est après coup, oui. Mais c'est par exemple une personne avec qui je j'aurais voulu travailler, et paf, comme par hasard,
ça arrive.
On a travaillé ensemble.
Ouais. Et réalisé vous-même?
Non, pas encore.
L'envie d'écrire ou de réaliser
Oui, d'abord, et surtout votre univers à vous aussi, en termes d'envie, de réalisateur. Vous parlez aussi de Quentin Dupieux dans quelques interviews.
J'aime beaucoup Quentin. J'aime beaucoup son cinéma. Moi, j'ai plein de désirs, j'ai plein d'envies. Est-ce que j'ai envie de les dire? Ça, je sais pas.
Pourquoi ça porte malheur? Ou vous avez peur
Ouais, je suis assez
superstitieuse.
Un petit peu, ouais. C'est un peu désagréable d'avoir ça, mais.
Alors, on peut parler en rôle plutôt.
Non, mais par exemple, une fois, j'ai écrit une lettre à Wes Anderson et j'ai réussi à lui donner en main propre, en me disant peut-être, on ne sait jamais, c'est une petite graine qu'on fait pousser qui un jour donnera quelque chose. J'en sais rien. C'était quoi, pardon?
Ou alors les rôles, si c'est difficile de citer des réalisateurs, peut-être des rôles qu'on pourrait vous proposer. De quoi rêvez-vous en incarnation?
Mais alors, par exemple, je sais pas si je peux en parler, donner des noms, etc. Mais je viens de faire la démarche de rencontrer un producteur et d'acheter les droits d'un livre, parce que j'avais trouvé le livre formidable, le personnage formidable, et j'ai rencontré l'auteur. On s'est très bien entendu, on a ensemble envie de collaborer. Et la démarche, en fait.
À l'adaptation au cinéma.
Alors, c'est pas pour que je la réalise.
Pourquoi pas?
Ah, parce que c'est pas du tout mon désir, c'est d'interpréter son personnage.
Ouais, d'accord.
Parce que, et en fait, être à la jeunesse du projet et être là au départ et porter le projet dès le départ.
Donc, à qui le confier ce projet maintenant?
À qui le confier? Bah, quelqu'un de talentueux, à quelqu'un qui aura la même envie que nous de le faire. Mais d'être à cette étape-là, c'est formidable parce que tout d'un coup, on a envie de se donner 10 fois plus, mais même. Pour ensuite, sur le tournage, pour la promo.
Et au moins, vous êtes sûr d'avoir le rôle.
Et au moins, je suis sûr d'avoir le rôle. Je l'ai eu.
Oui, on n'attend pas le désir d'un réalisateur. Quoi. Et pour finir, je vous fais un cadeau à chacun d'entre vous. Pour vous, Anna, je vous offre Lady Whisky de Joël Alessandra aux éditions Casterman.
Prenez-le bien.
Mais non, parce que forcément, dans le film, on vous voit beaucoup déguster, mais c'est le principe. Mais là,
ma mère qui écoute cette émission.
Mais là, c'est un hommage à la grande dame du whisky, Hélène Arthur. Elle décède en 2015. Et en fait, son neveu, par alliance, justement, l'auteur Joël Alessandra, décide de parcourir tous ses carnets pour essayer de retrouver un whisky inédit dont elle rêve pour en faire propre marque.
Raconte pas toute l'histoire,
c'est important de raconter au moins le départ pour dire
Parce que moi, j'ai ouvert le bouquin, je suis tombée sur mon whisky préféré.
Et ben voilà. Et pour vous, Pio Marmaille, je vous offre No Future, une histoire du punk.
C'est terminé, merci. Ciao,
Marmaille.
C'est en référence au film de Rémi Besançon. Ouais, lequel vous avez joué, et deux, parce qu'on a parlé du punk et du hardcore. C'est aux éditions Perrin, c'est de Caroline Kergariou, qui raconte, qui retrace l'histoire du punk, qui n'est pas que musicale, qui est une vraie révolte.
J'espère qu'il y a beaucoup d'images.
Anticonformiste.
Je rappelle que Marmaille, écoutez ça quand même.
Non, ça devient punk.
Parce qu'il y a une vie après Soul Base, et vraisemblablement, ça peut passer aussi par le punk, et c'est une vraie belle façon de raconter l'histoire du punk, et pas de façon cliché, comme ça peut être souvent le cas.
Anna Girardot et Pio Marmaille, merci mille fois d'être venus dans cette émission. Ça s'appelle Ce qui nous lie, et c'est ce mercredi au cinéma. À suivre les carnets de campagne de Philippe Bertrand, et bonne émission Philippe, parce qu'on est super labour, pardon.
Oh, il le fait, merci les amis, la Bourgogne à nouveau,
oui.
Meursault, Chassagne-Montrachet, nom d'une pipe. Enfin c'est tout.
Tu auras pu continuer à donner d'autres cépages. Ciao, bonne émission, merci.
Salut les amis.
Philippe.